This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Et je pense que d'arriver à regarder les gens et voir en quoi ils sont spéciaux, ça te donne un espèce d'amour pour les gens, même si tu les connais pas.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres, un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss ainsi que sur senscreatif-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde et ce notamment en créant le Creative Cloud, une solution tout en un vous permettant d'accéder où que vous soyez à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe, et des meilleurs. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Joachim Ridinger, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Joac. Animateur de profession, Joac travaille dans l'industrie du cinéma d'animation depuis de nombreuses années. Il a notamment travaillé sur des productions comme Les Mignons, la série Game of Thrones, The Mitchells vs. The Machines, sortie dernièrement sur Netflix, mais aussi l'incroyable film d'animation Spider-Man en anglais, Into the Spider-Verse, ainsi que le film Far From Home, le dernier film de la franchise Spider-Man, film pour lequel il a été nominé pour un Annie Awards, l'équivalent des Oscars de l'animation à Hollywood. Et ouais, rien que ça. Fasciné par le mouvement, les gens et le corps humain, Joac est également illustrateur durant ses heures perdues. J'en veux pour preuve son magnifique compte Instagram que je vous invite à visiter. Mais surtout, Joac est avant tout un ami de longue date. Vadrouilleur dans l'âme, ayant habité dans pas mal de pays et désormais basé à Stuttgart en Allemagne, Joac et moi, on ne se voit pas très souvent, mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et c'est d'ailleurs au détour d'une petite virée à Paris que j'en ai profité pour enregistrer un épisode avec lui. Cette discussion a été enregistrée il y a un bout de temps maintenant, mais avec les beaux jours, le soleil et les vacances d'été, je trouvais que cette discussion à la cool était de saison. Dans cet épisode, Joac revient sur son parcours, ses différentes expériences de vie à l'étranger, son travail en tant qu'animateur et ce que ça fait de gagner un Oscar, mais aussi d'un tas d'autres choses comme sa fascination pour le mouvement, l'utilisation du dessin comme technique de méditation, la différence entre discipline et motivation, quelle technique mettre en place pour renouveler sa créativité, comment travailler sous pression, pourquoi partager son savoir sur Instagram ou encore en quoi observer les gens pour les dessiner augmente notre empathie. Alors je vous en prie, chillez et rejoignez-nous. Voici ma discussion avec Joachim Ridinger. Bonne écoute. Cool.
Bonjour.
Bonjour.
Jérémy Kleiss.
Non, c'est toi, Jérémy. Enfin, si.
Toi, c'est Joachim.
Yes. Bienvenue sur Sens Créatif, Joachim.
Good.
We made it.
Ça fait tellement longtemps.
Ouais, c'est vrai. Ça fait super longtemps. Et puis, je suis tellement content de te recevoir là. Puis, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît aussi. Et je sais pas quoi dire pour t'introduire, parce que bon, comment introduire quelqu'un que je connais depuis tellement longtemps? Et ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu, de ouais. Visu.
Exact.
Et là, voilà, c'est l'occasion de petit passage à Paris pour pouvoir catch up. Alors exactement. Préparez-vous les auditeurs, on va sûrement balancer plein d'anglicismes dans cet épisode-là. Mais ouais, merci à toi.
Bah écoute, merci beaucoup pour l'info. L'invitation et bienvenue à tous en ce lundi matin.
Mercredi ?
Non, on sera lundi, non ?
Ah oui, oui, oui.
Ah, ouais. Et on va tout de suite commencer par la question.
Voilà, alors Joac ?
Alors, Jérémy Kleiss, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ?
Ce matin, je me suis levé en me disant « Yes, je vois Joachim, ça fait 2 ans que je l'ai plus vu ». Voilà, c'est ça qui m'a motivé ce matin. Et toi, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ?
Déjà, je me pose la question, est-ce qu'on est lundi matin? Est-ce qu'il y a un podcast qui va sortir?
Toutes les 2 semaines, alors.
Toutes les 2 semaines. Je dirais que ce qui me motive dans mon art, attends, comment je peux formuler ça? Je dirais que je suis passionné par le mouvement, donc je pense que ça se retrouve dans mon art, mais que ouais, dans notre monde, tout est en évolution, en perpétuelle évolution. Tout bouge, l'être humain grandit, chaque seconde, ton fils, il grandit, il devient plus grand, et arriver à capturer ce petit moment d'évolution, ça me fascine. Je vais loin, là, déjà.
Ah non, mais c'est parfait, tu sais très bien, comme j'aime rentrer dans le steak immédiatement. Mais là, c'est vraiment le truc, voilà, ça te tire, tu te dis, j'ai envie de continuer à approfondir cette fascination, quoi.
Ouais, carrément.
Et ça a toujours été, depuis que t'es petit, par exemple?
Je pense que depuis toujours, je suis fasciné par ça. J'ai une maman qui fait beaucoup de sport. Elle est éducateur sportif. Et du coup, le mouvement était vraiment présent dans ma vie, je pense, depuis le début. Et ouais, du coup, je pense que j'ai eu les habiletés techniques en termes de dessin et de création beaucoup plus tard. Mais je pense que c'est venu... la fascination était là assez tôt.
La fascination pour le mouvement était avant le dessin.
Ouais.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet arrière-plan personnel qui t'a amené à un jour découvrir le dessin, tout ça?
Ouais. C'est rigolo en fait. La semaine dernière, je suis retourné chez mes parents. Et je me suis rendu compte comment la Belgique en fait a influencé ma vie.
Allez.
Ouais. Au grenier dans la maison de mes parents, on a, je dirais, au moins 600-700 kilos de BD, de bandes dessinées. Et du coup, la majorité vient de Belgique. Et j'étais abonné au journal Spirou.
Ah oui, oui.
Et en fait, avec du recul, je vois combien ça m'a complètement shapé, quoi.
Ça m'a pareil, ouais.
C'est fou.
C'est trop bien ce journal. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est toujours.
Et du coup, je pense que depuis tout petit, je lisais des BD. Très honnêtement, je pense que les livres que j'ai dû lire à l'école, il doit y en avoir moins de 5 que j'ai fini.
Ah oui.
Parce que ça m'intéressait pas. Mais alors, les BD, je suis sûr que toutes celles que t'as là sur ta, en étagère, je les ai toutes lues, tu vois.
Ouais.
Et, c'est marrant. Hein. Du coup, la Belgique est en moi beaucoup plus tôt.
Je te connais. On la soupçonne pas, hein, mais non, elle est là, présente.
Il faut faire attention, les Belges. Leur bière et leur BD sont...
Et donc, la BD, et tu t'es dit, je veux faire pareil, ou tu t'es mis à recopier ou...
Ouais, en fait, depuis tout petit, je sais pas pourquoi, mon premier souvenir de métier que je voulais faire, c'était dessinateur humoristique.
Ah oui.
Je sais pas... comment c'est venu. Peut-être que je l'avais lu quelque part, ou peut-être dans un Spirou, je sais pas. Et maintenant que j'y repense, ça a pas forcément... Enfin, je sais pas si on peut en faire un métier, tu vois. Mais c'est marrant comment les choses ont évolué. Et au final, aujourd'hui, je vis un petit peu mon rêve, en fait. Mon rêve de gosse, quoi. C'est marrant.
Et c'est quoi ce rêve de gosse?
De dessiner en me faisant plaisir et ouais, du coup, dessin humoristique, quoi. Si ça peut faire rire des gens, c'est cool. Même si je cherche pas à faire ça, mais voilà.
Du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, voilà. Alors, Joachim Riedinger. Riedinger! Si tu veux le dire avec
Riedinger.
L'accent. Riedinger. Joachim Riedinger, animateur 3D dans ma vie de tous les jours. En gros, l'animation 3D, c'est tu prends une petite marionnette que tu mets dans un ordinateur 3D, dans un logiciel 3D, et en gros la personne qui fait bouger cette marionnette, c'est un animateur 3D. Du coup, ça c'est mon job.
C'est toi.
Ouais.
Tu fais bouger les gens.
J'essaye. Ce qui est le plus important, c'est d'arriver à donner à faire sortir une émotion. Et d'arriver à communiquer un message grâce à cette marionnette.
Ouais.
Ouais.
Et on va revenir à ça par la suite.
Ouais.
Pour maintenir la chronologie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de... Non, t'inquiète. On en a pour une heure là au moins. est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours?
Ouais.
Et puis on s'est connus, toi et moi. Tu venais, il me semble, juste de terminer tes études à l'ESMA. À Montpellier.
Oui. Ouais, exactement.
Tu venais, je crois, de terminer, ouais.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais me parler de cette période-là?
Ouais. Tu veux dire de l'ESMA?
Ouais, l'ESMA, ouais.
L'ESMA. Ouais, bien sûr. Donc, juste avant l'ESMA, j'avais étudié du graphic design, ça se dit, ça? Du graphisme.
Ouais.
Et de la communication et les métiers de l'internet, comme on appelait ça à l'époque. Et j'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé la technique et l'artistique et ce mélange me passionnait toujours. Et du coup, je commençais à faire de l'illustration aussi et je sentais que je voulais un petit peu pousser là-dedans. Et à la fin de ce DUT, ils proposaient une petite formation de 3D. Et ouais, voilà, mes yeux se sont ouverts et
j'ai dit c'est ça que je veux faire.
Voilà, exactement. Du coup, bah j'ai postulé dans cette école, l'ESMA à Montpellier, et ça a marché. Et voilà, je suis rentré à l'ESMA 2008. C'était une formation à 3 ans. La première année, elle était assez généraliste sur tous les logiciels qu'il faut apprendre si tu veux faire ce métier. Et de plus en plus, après, je me suis spécialisé justement dans l'animation où tu fais bouger les personnages, tu t'essayes de leur insuffler la vie. Mais voilà, c'est le travail d'une vie, d'arriver à masteriser, non,
à maîtriser.
Maîtriser.
On vous avait prévenu.
D'arriver à maîtriser ce médium, c'est ça mélange tellement de domaines. Il faut être bon, ou en tout cas, il faut être intéressé par le théâtre. Parce qu'il y a tout un côté d'acting. Il faut aimer la danse ou le sport, parce que tout est basé sur le mouvement. Donc, il faut savoir comment un mouvement gracieux va être. Tu vas pouvoir le décrire, ou comment quelqu'un qui est très en colère va bouger. Ou il y a toute une partie artistique où l'expression d'une pose, tu dois savoir la dessiner, ou en tout cas voir comment tu peux poser un personnage. Donc il faut avoir une petite idée dans ta tête. Il y a aussi un petit côté musical où faut avoir un sens de comment mettre en scène toutes ces poses et qu'elles aient une petite mélodie, tu vois. Donc c'est plein de domaines qui se mettent ensemble et c'est passionnant.
C'est là que t'as appris à vachement observer le monde autour de toi, ou ça a toujours été quelque chose chez toi aussi? Parce que je sais que t'es constamment en train d'observer, de dessiner, tu fais ça tout le temps, tu remarques les poses un peu spéciales des gens, les dégaines un petit peu drôles, les expressions. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué chez toi. Est-ce que, ouais, voilà.
Je pense que ça se travaille. Je pense que je l'avais pas au début quand j'étais petit, mais quand j'étais petit, je pense que c'était dans chaque BD que je lisais, tu retrouves ça, tu vois, tu retrouves une pose, un personnage qui dit clairement quelque chose. Du coup, je pense que avec le travail et la déconstruction de tous ces cours et de toute cette anatomie, bah, je pense que j'ai réussi, ou en tout cas, c'est ma prétention, c'est que j'essaye de tous les jours de devenir meilleur à ça. Mais ouais, voilà.
J'ai des souvenirs que l'ESMA, du moins à l'époque, c'était un peu, ça avait ce côté, c'est super hardcore en fait, comme type d'études. Est-ce que t'as toujours cette impression aujourd'hui, maintenant que t'es sur le marché du travail, ou non, ouais, vraiment c'était hardcore?
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette école, c'est que tout était basé sur les projets, et donc il fallait faire beaucoup de projets. Et j'ai l'impression que si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton projet, si t'arrives à trouver la petite étincelle, tout va être plus simple, parce que tu seras motivé pour le finir, tu vois. Donc oui, il y avait beaucoup de travail et j'ai pas vu mes copains, on va dire, qui n'étaient pas dans l'école. Socialement, c'est vrai que j'ai un peu sacrifié mon temps, comment dire. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour avancer dans ce domaine. Mais voilà, ça fait partie de. C'est comme chaque école.
Ouais, bien sûr.
Si tu demandes à un ingénieur, c'est sûr que son école préparatoire, en général, c'était difficile.
Que la vie te l'a bien rendu par la suite, quoi.
Ouais, je pense que ça j'en suis. J'ai une gratitude énorme envers cette école parce que elle m'a appris à travailler et à aimer, à chercher des solutions et à aimer cette difficulté, tu vois. Parce que si tu tombes amoureux de ça, au final, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus loin parce que tu aimes un petit peu. Ce côté, il faut que je trouve une solution à ce problème.
La difficulté est devenue ton allié et c'est plus l'ennemi à éliminer, quoi.
Exactement. Merci de trouver mes mots.
Ouais, c'est une belle leçon de vie, ça. Mm-hmm. Et puis, il me semble qu'une constante dans ta vie, c'est le mouvement. Et suite à ça, le mouvement ne s'est plus jamais arrêté. C'est-à-dire que t'as vadrouillé, t'as travaillé à Londres, on se côtoyait un petit peu plus souvent quand moi j'habitais aussi en Angleterre à ce moment-là. Puis t'as vécu à Paris, t'as même fait une coloc avec ma femme.
C'est vrai.
Puis t'as bougé à Stuttgart en Allemagne, puis t'as été à Vancouver au Canada. Et là, t'es de retour en Europe, en Allemagne de nouveau.
Ouais.
Et je voulais savoir un peu comment t'avais vécu tous ces voyages et un peu quelles sont les perspectives que tu as acquéries en voyageant, en découvrant toutes ces différentes cultures et ces différentes méthodes de travail aussi.
Ouais, ouais. Bon, déjà, il faut savoir que mon cerveau, il est pas très fort dans tout ce qui est linguistique. Du coup, c'est un peu l'humour divin pour moi de voir que j'étais toujours super nul en allemand, en anglais, même en français. Et le fait de m'adresser de parler, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu difficile. Et du coup, c'est super rigolo que j'ai marié une femme allemande, hein, et j'ai voyagé voilà en Angleterre, en Allemagne, au Canada, alors que je suis vraiment une bille dans tout ça, mais voilà, ça me fait un peu rigoler avec du recul. Et
l'ironie du sort, comme on dit.
Voilà, exactement. Mais du coup, ouais, professionnellement, c'est vrai que si tu aimes bien voyager ou si t'es pas gêné par le fait de bouger, ben c'est vrai que l'animation c'est un domaine parfait parce que tout fonctionne au projet et si une entreprise a besoin d'animateurs, ben ils vont juste regarder ta démo reel et si t'as le niveau nécessaire, ben ils vont tout faire pour te prendre. Donc c'est un petit peu un métier de troubadour où tu voyages et voilà, pour un temps, je pense que c'était parfait. J'ai vraiment été béni par toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Et ouais, honnêtement, ouais, je pourrais pas m'en vouloir d'avoir fait tout ce que j'ai fait. C'était vraiment super.
Et t'aimes bien ce style de vie nomade?
Je dirais que pour mes premières années, donc là, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je travaille. Pour mes premières années, c'est vrai que c'était formidable de pouvoir rencontrer tellement de gens, tellement de styles de vie différents, de façons de voir le monde. Du coup, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est vrai que à long terme, je pense qu'on va commencer à se calmer ou en tout cas poser nos valises,
ouais.
Parce que c'est vrai que vivre avec tellement d'allers-retours. Ouais, c'est un sacrifice quoi. Et je sais qu'on voulait être un peu plus proche de nos familles et c'est une des raisons voilà pourquoi on veut retourner
back in the hood.
Ah là, exactement.
Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est une constante dans ce type de métier de beaucoup voyager.
Ouais.
Puis t'as bossé pour tellement
de
trucs. Tu pourrais on peut peut-être justement parler de ça. Donc tu de jour comme tu disais, tu es animateur 3D.
Ouais. Exact. Ouais,
tu bosses sur des films d'animation.
Voilà.
Et toi, ton rôle, c'est de t'occuper du mouvement des personnages.
Exactement.
Puis t'as bossé sur Les Mignons, Game of Thrones, Spider-Man, Into the Spider-Verse.
Ouais.
Ouais, que j'ai regardé pour la première fois il y a quelques jours et qui est juste incroyable. Enfin, c'est vraiment. T'as fait quoi sur celui-là? C'est une petite parenthèse, mais.
Ouais, bah tu veux des scènes quoi, tu veux...
Non, enfin ouais, je sais pas, tu faisais bouger les Spider-Man ou...
Ouais, alors moi je suis arrivé vers la fin de la production ou au moment où il fallait commencer à faire avancer le film beaucoup plus rapidement, tu vois. Donc c'était super pratique parce que ils avaient déjà défini le style qui a pris beaucoup de temps. C'est visuellement c'est tellement compliqué que il a fallu beaucoup expérimenter et moi je suis arrivé à un point où voilà maintenant il fallait finir le film et donc j'ai fait pas mal de scènes dans tout à la fin du film, la bataille finale, voilà, t'as le train qui
ça va dans tous les sens,
voilà, exactement.
C'est incroyable graphiquement,
là je me sentais vraiment dans mon monde, tu vois, tout ce que j'avais imprégné quand j'étais petit, toute cette ces séquences d'action, faire bouger Spider-Man, c'est vraiment un rêve de gosse quoi. Et du coup c'était la première fois où je planifiais en fait tout toutes mes animations, je les planifiais en 2D parce que ça s'adaptait, ouais, ça se prêtait bien au film. Je préparais toutes mes poses, ou en tout cas mes poses principales, je les préparais en 2D. Du coup, je travaillais tout en 2D. Après, j'importais tout dans mon software en 3D et je refaisais la pose en 3D avec la marionnette, quoi. Et ça a super bien marché. Du coup, ouais.
Vous avez gagné un Oscar pour ce film. Je me trompe?
Ouais, exactement. Les Sony, enfin les Real ont gagné l'Oscar du Best Animated Feature, je crois.
En 2019.
2019, ouais.
Il y a une photo de toi qui tient l'Oscar, je me trompe.
Exact.
Ça fait quoi de gagner un Oscar comme ça sur un film sur lequel t'as travaillé?
Bah ouais, c'est ça flatte l'ego, c'est
ah l'ego.
Le fameux. Non, bah écoute, je trouve que c'est une super chose parce que c'est vraiment un film qui a essayé de pousser les barrières beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait dans le monde de l'animation, ou en tout cas l'animation 3D. Et ouais, je suis vraiment reconnaissant que les gens de Hollywood ou tous les juges ont apprécié ça et apprécié cette prise de risque, parce que c'est vrai que chaque fois que tu prends un risque, tu t'éloignes de la cible un peu mainstream, mais tu vas toucher peut-être plus un public élitiste. Et c'est vrai que ça c'était vraiment un gros risque de financièrement de faire un truc qui va être complètement barjo, mais qui va pas plaire à la majorité. Et du coup, il y avait toute cette balance entre arriver à créer quelque chose d'unique, mais qui soit appealing, qui soit agréable à regarder. Et ouais, voilà.
Et t'aimes bien cette prise de risque?
Ouais, je vis pour ça.
C'est vrai? C'est une adrénaline pour toi?
Ah, carrément. Créer quelque chose d'unique qui a jamais été vu, c'est sûr que c'est un challenge pas possible, mais c'est super rewarding.
gratifiant.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça va faire peur par moment. Enfin, c'est pas toi qui es aux commandes du film. Mais...
Ouais.
Et est-ce que dans ta vie en général, c'est une constante, ça, cette prise de risque, où t'as suffisamment de risques dans ton travail que du coup, dans la vraie vie?
On va dire que dans le milieu de l'animation, tu travailles toujours pour un réalisateur. Donc, tous tes choix doivent être dans la vision du réal. Et il y a une hiérarchie assez compliquée, tu dois faire tout valider par ton lead. Une fois que le lead a validé, c'est ton sup qui doit le valider. Une fois que le sup a validé, c'est le réal. Et tout à la fin, quand le film est presque fini, les producers le regardent et ils doivent donner leur avis. Et du coup, c'est chaque fois, c'est des allers-retours. Et c'est un processus très compliqué pour le bien du film, parce que tout le monde veut faire le meilleur film possible. Et du coup, moi, dans mon art personnellement, j'ai envie que ça aille vite. J'ai envie de faire ce que je veux moi. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre me dise quoi faire. Et du coup, c'est toute une question de frustration un petit peu créative que j'ai envie de faire sortir, tu vois. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'aime bien dire que mon art personnel nourrit beaucoup mon animation et mon animation nourrit mon art. Je pense que...
Ouais, c'est un équilibre.
Ouais, voilà, exactement.
Du coup, les challenges et les difficultés que tu rencontres dans ton travail, mais que t'en fais ton allié, comme tu le disais, tu vis pour ce risque. Donc, je sais pas si du coup, ça gomme entièrement la difficulté. Mais c'est quoi un peu ces challenges au niveau de l'animation, justement, que tu te dis, ah, ça c'était un fameux à devoir combattre, quoi?
Très simplement, par exemple, sur ce film, un des challenges, c'était de réussir à faire des animations fluides, par exemple, alors qu'on travaillait juste en 12 images par seconde. Donc, en animation, en gros, ton œil, enfin non, pas en animation, mais globalement, ton œil, il va voir un mouvement fluide à partir de 24 images par seconde. Mais dans le temps, à l'époque, ou en tout cas en animation 2D, ce qui se fait souvent, c'est de travailler juste avec 12 images par seconde parce que t'as déjà une impression du mouvement et ça te paraît à peu près fluide. Mais si tu fais une action très rapide, tu vas voir que ça saccade. Et du coup, un des partis pris graphiques de ce film, c'était de dire « Ok, on va faire la majorité des mouvements en 12, donc en 12 images par seconde. » Et ça, c'était un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, tu vois, de travailler comme ça. Et c'était un gros challenge. Et ça, il fallait changer tout le workflow, personnellement dans ma tête, et ça m'a appris plein de trucs et j'en suis ressorti bien meilleur, tu vois. Et donc c'est super, ouais, c'était une super opportunité d'apprentissage aussi. Ouais, donc chaque challenge, ouais, c'est difficile, mais tu vas en ressortir encore plus fort et c'est magique.
Et en quoi l'animation, enfin ton travail d'animateur, nourrit ton travail d'illustrateur?
Ben, dans l'animation, tu vas toujours chercher à être déjà très clair, parce que si t'as juste quelques frames pour expliquer, admettons t'as un plan de une seconde pour montrer qu'un de tes personnages tombe par terre, tu peux pas animer ça de manière compliquée. Il faut que ce soit très simple et très accessible et que visuellement en une seconde ce soit le public l'ait compris, tu vois. Et du coup, ce genre de truc, je pense que ça nourrit mon illustration, parce que j'ai envie que les gens voient mon image et y a pas de réflexion possible. Ça dit clairement ce que ça doit dire, tu vois. Cette sorte de simplicité, d'économie, ouais, visuelle, d'arriver à être très clair rapidement, j'apprécie beaucoup ça. Et inversement, l'illustration nourrit mon animation, parce que depuis toujours, je recherche à faire des dessins très dynamiques, on va dire.
Carrément, ouais.
Et du coup, bah ça, c'est super utile quand tu fais des scènes d'action, parce que tout est basé sur cette force de mouvement, tu vois.
Ouais.
Et je pense que j'étais un petit peu pas obsédé, mais j'étais passionné par ça à l'époque. Enfin, toujours encore, mais je l'ai tellement travaillé que maintenant, dans mon animation, je le fais un petit peu les yeux fermés, tu vois. Donc voilà, je pense que mon illustration nourrit aussi mon animation grâce à ça.
Oui, et puis j'imagine que c'est, tu me parles d'un mouvement qu'on voit en une seconde.
Mm-hmm.
Toi, tu mets tellement de travail, mais on le voit pas, on le voit pas de manière déconstruite, que toi, tes illustrations, c'est des moments figés dans le temps.
Ouais.
Et voilà, tu rends clair le mouvement.
Ouais.
Comme moi, j'aime rendre clair ce que j'essaie de communiquer à travers mes illustrations.
Exactement.
Toi, c'est le moment pause sur un mouvement, quoi.
Exactement.
Et ça a toujours été un peu la marque de fabrique de tes illustrations. C'est des angles et des mouvements toujours très très marqués.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, c'est marrant que tu dises ça, parce que ça rejoint un peu ce que je disais au début, cette recherche de mouvement, cette recherche de... Je fige le temps dans cette illustration, mais en même temps, je vois d'où ça vient et où ça va. Et du coup, il y a tout un espèce de complexité, c'est un peu paradoxal d'arrêter une image fixe, mais de voir ce qui vient après, ce qui vient avant. Enfin, je trouve ça un peu rigolo. Ouais.
Et tu bosses du lundi au vendredi dans les studios d'animation.
Ouais.
Et puis habituellement le soir, donc tu dessines. Donc pour toi, j'imagine, c'est une manière d'évacuer justement certaines des frustrations créatives que tu peux parfois avoir au travail. Et parce que ça te fait plaisir aussi, mais tu serais dans le droit d'avoir envie de faire autre chose le soir.
Ouais.
Bon, je sais que t'es une machine à dessiner, que tu dessines toujours constamment. Tu fais partie de ces quelques personnes que je connais, que on passerait d'un moment ensemble et au bout d'une heure, tu sortirais ton carnet, tu m'écouterais, mais tu serais en train de dessiner. Et, ouais, enfin voilà, tu dessines toujours et encore en dehors des heures de boulot, quoi.
Ouais, bah, je pense que c'est, avec le temps, je me rends compte que dans le dessin, il y a une sorte de méditation, tu vois, il y a une espèce de, je me recentre, je me retrouve moi-même. Après, il faut pas que je le fasse de trop non plus, parce que je sais que, voilà, avec ma femme, on a besoin de temps aussi entre nous et elle est plus importante que le dessin pour moi, tu vois. Mais ouais, je suis vraiment reconnaissant qu'elle me laisse cet espace aussi, parce qu'elle sait que ça me fait du bien, et le meilleur cadeau que je lui fais, c'est d'être bien, tu vois. Si j'ai pas eu ma petite dose de dessin, je vais être peut-être un petit peu plus à fleur de peau.
Tendu
d'iki. Et ouais, donc il y a une espèce de respect mutuel. Elle fait ses trucs, moi je fais mes trucs, et on se retrouve après, quoi.
Et tu peux me parler du coup de cet aspect méditatif ou de recentrage avec l'illustration?
Ouais, carrément. Bah,
C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement et que je pense que je suis un petit peu en train de découvrir. Mm-hmm. Moi, je suis quelqu'un vachement, tu le sais, tu sais, genre, comment dire... en fait, non, c'est pas vrai, parce qu'en tant que freelance, avec les podcasts et tout, tout se mélange un peu, mais j'essaie quand même de garder un certain équilibre boulot, travail, enfin, boulot, maison, et pour aussi donner du temps à ma femme et mon fils. Mais... je connaissais ton exemple, je savais que tu dessinais énormément le soir et tout. Et dernièrement, j'ai commencé un petit peu plus à le faire, à bosser le soir, parce que habituellement, et puis les auditeurs du podcast ils le savent, je dis souvent que je suis du matin, moi je suis pas du soir. Et en fait, en ce moment, je redécouvre une sorte de quiétude, je sais pas si c'est le terme, mais à dessiner le soir. Ça reste toujours aussi pour des projets ou pour le podcast notamment, mais c'est une récréation quand même. Et je découvre une sorte de recentrage aussi. Mais je sais que je suis un petit bébé dans cette histoire de. Je pense que quand je bosse même au travail de jour, quand je suis dans le flow, je ressens une sorte de méditation quand même. Mais une sorte de méditation involontaire. Hein. Que là, toi, je sais que tu crées cet espace volontairement et que t'en as besoin pour te recentrer. Voilà. Ouais. Longue explication, mais à toi la parole.
C'est super. Ouais. Ça décrit bien mon état d'esprit quand j'essaie de dessiner. C'est vrai que déjà je dessine toujours que des choses que j'aime bien. Ça c'est j'ai pas envie, quand je veux rentrer dans cet esprit, il faut pas que je travaille pour quelqu'un d'autre, et il faut que je fasse quelque chose que j'ai en tête et que j'ai dans mes tripes, tu vois. Il faut que ça sorte. Si c'est quelque chose d'autre, ça m'arrivera jamais de rentrer dans cette petite phase. Et ouais, c'est vrai que le dessin, bah au final ça prend du temps, ça prend des ratures, ça prend quelques sketchs, mais au final quand tu passes un petit peu de temps et que tu t'investis, au bout d'un moment t'arrives à trouver une petite blague ou un petit truc qui te fait rigoler, et à partir du moment où t'as ce déclic, je sais pas trop comment le décrire, tout avance tout seul, et voilà, tu peux le faire durer un certain temps, quoi. Et je sais que donc ma femme Damaris, elle fait plus de la photo, et là c'est l'inverse, dans le sens où la photo, tu dois vraiment aller chercher quelque chose dans le monde, alors que là c'est à toi d'internaliser, de gérer tes propres shapes, tes propres formes, tes propres couleurs. Et
Hey, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode.
Un truc qui me marque aussi dans ton travail, c'est t'es hyper prolifique, et on pourrait se demander est-ce que la source se tarit jamais, est-ce qu'il est jamais à court d'inspiration. Mais toi, justement, avec cette histoire de mouvement, on pourrait presque dire que je l'expérimente aussi dans mon travail, mais le mouvement appelle le mouvement, en fait. C'est en étant actif constamment, que au final tu t'auto-inspires constamment. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis, toi?
Ouais, je pense aussi que dans chaque sport, dans chaque discipline artistique ou n'importe quoi, dans chaque passion, au plus t'investis du temps, au plus les choses deviennent simples, et au plus tu transformes ton intelligence en réflexe, au plus les choses viennent naturellement, et du coup le côté fun transparaît encore plus, tu vois. Si chaque fois que je dois tirer dans un ballon, je dois réfléchir, attention, je dois mettre mon pied gauche à gauche de la balle pour pouvoir mettre mon pied droit près du ballon, c'est tout un concept à intégrer dans ta tête, et si au final t'arrives pas à marquer le but ou à tirer dans le but, tu vas te frustrer, et si tu le fais un certain nombre de fois, tout devient beaucoup plus automatique, et le côté fun va sortir, et ça va être plus intéressant pour toi, tu vois. Et je pense que ton expression artistique va être beaucoup plus intéressante.
C'est une passion ou un besoin qui s'est transformé en habitude grâce à la discipline, quoi.
Ouais, je pense. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est une citation que j'aime bien redire, c'est que la discipline bat la motivation.
Ah ouais, vas-y, continue.
Parce que en gros,
ça me parle.
La motivation, si je suis motivé pour apprendre à jouer au basket, peut-être que pendant 2 semaines, 3 mois ou une année, je vais faire que du basket. Mais si je suis si je suis discipliné et que je fais ça et que je me donne une petite habitude et que ça rentre dans mon cycle interne, même si j'en fais pas intensément, tout va venir naturellement parce que à cause de la répétition et parce que le cerveau il va être en permanence connecté avec ces mouvements du basket. Et au final je pense que la répétition ou la répétition elle bat l'intensité, tu vois. Si tu le fais 5 minutes par jour mais que tous les jours de ta vie tu vas faire ton petit panier, ton petit dunk, au final tu vas devenir meilleur que quelqu'un qui fait un stage intensif de 3 mois mais qui s'arrête qui en fait plus de toute sa vie.
Ouais.
Je pense que quand tu auras 50 ans, tu auras beaucoup plus de oui. niveau.
L'entraînement, la discipline devient comme une seconde nature pour toi.
Exactement.
Ouais. Tu réfléchis plus, comme tu disais tout à l'heure. Quelque chose que tu aimais bien dire par le passé, je sais que tu aimais bien dire à l'époque et que la créativité est un muscle.
Ah ouais.
Et
je disais ça, moi.
Ouais, tu disais ça.
C'est bien ça. Du coup, si je le redis, est-ce qu'il faut que je me cite alors ?
Ouais.
Non, je pense pas que j'en sois l'auteur.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est la créativité, c'est vrai. Au plus tu l'entraînes, au plus.
C'était quoi ? Il y a une citation qui dit une histoire qui dit. On pose la question à un artiste : est-ce que vous êtes toujours inspiré ? Et il dit. Attends, comment ça va ? Est-ce que vous attendez l'inspiration pour travailler ? Et il dit. Oui, heureusement pour moi, elle arrive tous les jours à 9h le matin. Et c'est genre, t'es régulier, t'es toujours là, tu fais tes exercices.
Ouais.
Et au moment donné où tu dois y aller, go, boum, t'es prêt, en fait. Parce que le corps, c'est une machine.
Ouais.
Et c'est pas toi qui vas me contredire avec ton côté sportif et tout. C'est le corps a une mémoire et du coup, il sait comment agir quand c'est go time, quoi.
Ouais. Mais tu rigoles, mais à l'époque, je voulais être un petit peu plus conscient de mes créations et du coup j'ai commencé à me faire une liste de toutes les choses rigolotes que je trouve dans la vie ou une petite liste de choses que j'aimerais illustrer et au début t'as 3 lignes mais si tu continues un tout petit peu dans ta vie de tous les jours à chaque fois que t'as une idée tu la notes en quelques jours tu vas te rendre compte que t'as beaucoup plus d'idées que tu penses. Et si tu commences à les noter, j'ai une liste de, je sais pas, au moins 200, 300 idées de trucs que j'aimerais bien illustrer une fois dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai une idée, hop, je la note. Et, c'est vrai que c'est un muscle à travailler.
Moi, je suis pareil. Enfin, je note, moi, c'est plus peut-être pour le podcast. Dès que j'ai une idée, bim, je l'écris. Ce soit dans un petit carnet que j'ai souvent sur moi ou dans mon téléphone. J'aime bien cette citation qui dit, ça va être l'épisode des citations, le cerveau, il est super pour avoir des idées, mais il est pas bon pour les garder.
Il faut
les mettre par écrit, comme ça tu les oublies pas, et en fait après, par la suite, ton cerveau fait des connexions, il fait des associations d'idées, et j'imagine que c'est même pour le dessin, quoi.
Exactement.
Ouais.
Créativité est un muscle. Et vous notez tous, là, hein. C'est le genre de truc, là.
Toi, tu fais aussi encore toujours le daily drawing routine. Enfin, tu c'est un de tes rituels. Tu commences tous les jours avec un dessin.
Récemment, je pense que je dessinais plus le soir, mais des fois, je suis pas inspiré et je vais regarder, par exemple, juste des visages. Et je vais dessiner des visages. Ça, c'est ma nouvelle fascination, c'est je regarde des visages et j'essaye de les dessiner. Alors peut-être une fois je vais dessiner le visage flippé. Donc
peur.
Pardon. Flippé, ah non 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 pardon. Ah. Flip flop.
On est en France ici.
Je vais dessiner le visage en miroir.
Ah ok.
Du coup je le regarde et tout ce qui est à gauche ça va aller à droite et tout ce qui est à droite ça va aller à gauche. Et du coup c'est des petits jeux, tu vois, pour essayer d'enregistrer plus d'informations.
Ah ouais.
Ou des fois je dessine avec la main gauche, ou des fois
c'est cool.
J'essaye de faire un dessin en moins de 30 secondes et du coup ça force le cerveau à sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, c'est rigolo, c'est, je pense que tu t'imprègnes un peu plus de ce que tu as envie d'apprendre si tu te forces à le faire d'une autre manière. Et
Moi, ça me rappelle, il y a bien des années, quand on avait fait le challenge, le gribouillage pelliculé. Ah, en fait, ouais. On avait, pendant une semaine, on avait passé, on regardait un film par jour, et puis dans la journée, on devait faire chacun une illustration. C'est marrant parce qu'à l'époque, ça me paraissait être genre un challenge et tout. Et aujourd'hui, ça paraît un petit peu plus, c'est devenu un peu plus comme une seconde nature. Mais j'avais vraiment eu un breakthrough. j'arrivais pas à faire les choses que je voulais faire parce que je voulais pas modifier le process, en fait. Mm-hmm. Et je me souviens, toi, limite, tu faisais tes illustrations en sifflotant et tout. Et moi, j'étais frustré parce que, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. J'avais la pression. Moi, j'ai un vrai truc avec la temporalité où, en fait, ça me stresse. Mm-hmm. Le fait de devoir produire quelque chose en un minimum de temps. Et c'était bien jusqu'au dernier jour, en fait, où j'avais eu moins de temps. Et je me souviens, la veille, je m'étais énervé. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je bossais dans Illustrator et je t'avais montré des illustrations d'artistes que j'aimais, qui étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus décomplexés, beaucoup plus... ça allait un peu plus dans tous les sens, c'était un peu plus chaotique. Et je disais, mais c'est ça que je veux faire. Et tu m'as juste dit, fais-le. C'était aussi simple que ça. Et j'étais genre, ouais, ok, d'accord. Et en fait, j'ai délaissé Illustrator et j'ai commencé à dessiner dans Photoshop. Ah. Et c'est là, en fait, où j'ai, il y a un mind shift qui s'est passé dans mon esprit. Et depuis, je dessine quasi que dans Photoshop. Ça remonte à ça. Et je me suis beaucoup plus amusé parce que par le passé, Illustrator c'était trop propre et Photoshop m'a permis de décomplexer le processus. Mais au début, j'étais un vrai bébé. Enfin, je veux dire, je connaissais pas bien le dessin sur Photoshop.
Ouais, il y a un côté beaucoup plus organique et beaucoup plus manuel quand tu travailles dans Photoshop ou quand tu travailles dans un logiciel de peinture. Et c'est vrai que ouais, quand tu travaillais en vectoriel, chaque clic représente un point d'ancrage et c'est il y a une passe technique qui peut freiner le processus.
Ouais. Enfin, je pense à ça parce que tu disais que volontairement tu te mettais en danger. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais tu vas utiliser ta main gauche, tu vas utiliser des techniques ou des choses que t'as jamais utilisées. Au final, ça te nourrit parce que ça, t'es obligé de trouver une nouvelle solution.
Ouais.
Et du coup, tu te stimules, t'es pas dans la routine et du coup, ça devient beaucoup plus fun. Même si au début, tu te dis, merde, c'est compliqué. En fait, au final, on en revient toujours à ce que t'as appris à l'ESMA de faire de la difficulté ton allié au final.
Ouais. C'est vrai que dans la contrainte, ça a toujours été, un outil aussi pour les artistes de travailler en une couleur ou de se donner une contrainte de temps. C'est vrai que il y a plein d'artistes qui il y a des choses assez concluantes dans la contrainte et je pense qu'en dans nos métiers toi tu peux en parler moi je peux en parler aussi dans mon daily job de en tant qu'animateur. T'as une certaine pression des producteurs qui disent qu'il faut finir ton plan temps et temps en quelques jours et du coup t'es obligé de sortir le jus créatif et c'est vrai que si tu t'y habitues et si tu penses que le goal le but final c'est pas forcément là où tu vas trouver ta récompense mais si tu cherches ta récompense dans le processus. C'est vrai que ça décharge un petit peu, toute cette pression que on se met, et aussi, j'ai l'impression que on peut se critiquer très très fort, très très vite, en essayant d'apprécier le travail au moment M ou dans le présent. J'ai l'impression que ça relaxe beaucoup plus la vie artistique.
Tu travailles bien sous la pression?
Ouais, je pense qu'il me faut un petit peu de pression. Ouais.
Et comment tu fais? Qu'est-ce que tu te dis mentalement quand t'es sous pression et que tu te dis, bon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille?
Alors, j'ai deux remèdes. Le premier, c'est, je vais sur YouTube et je me mets ça s'appelle le Best of Mozart.
Uh-huh.
Et du coup, c'est une vidéo de 2 ou 3 heures de musique de Mozart. Et ça me met dans un mood de travail.
Ah ouais.
Ou bien Fatboy Slim.
C'est totalement différent. C'est pas en mode Deadline plutôt, Fatboy Slim?
Ah si, ouais. Deadline, c'est...
right here, right now,
right here, right now. Fat Bosch, mais fucking, ouais, c'est bien ça. C'est, il y a un beat assez cardiaque à mon avis. Je sais pas comment il fait, mais c'est vrai que ça, ça engage le cerveau à être.
Oui, il y a un rythme qui se crée.
Ouais. Ouais. Il y a une petite transe.
Moi, en ce moment, j'écoute plus. Je me suis mis à plus écouter du jazz, mais jazz sans trompette. Donc jazz plutôt piano.
Jazz sans trompette. Ouais, d'accord. Tu sais. C'est un genre ça.
Ouais. Je sais pas. C'est marrant. J'ai mis sur Instagram quand j'ai découvert un album. J'ai dit j'adore ce type de jazz, mais je sais pas comment ça s'appelle. mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas de trompette. Ah. Mais c'était plus piano, guitare, basse, truc. Mais et en fait, ouais, ça me met dans un bon. C'est un petit côté doudou. Enfin bref, il y a pas de paroles.
Il y a personne qui rappe ou qui fait un petit.
Non. Non. Il y a pas de d'émotion en fait, si ce n'est la musique d'ambiance en fait. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Bon, voilà, c'était un interlude musical. Mais oui. Donc toi, c'est juste, tu te dis, j'ai pas le choix, je vais me mettre dans des bonnes conditions et puis tu mets quoi.
Par contre, ouais, je parle plus forcément aux gens autour de moi. Ça, c'est vrai que faut le savoir que je deviens un petit peu un zombie. Quand j'ai la pression, faut que j'avance. Faut que ça sorte des tripes, tu vois.
Ouais. Moi, c'est drôle parce que initialement, je suis quelqu'un qui pense qu'il ne travaille pas bien sous la pression. Je n'aime pas la pression. J'ai toujours besoin de, je donne toujours les choses à temps, voire en avance parce que j'ai une sorte de course contre la montre. Et en fait, je sais que, notamment en devenant papa et tout, mon temps, il s'est réduit. J'ai eu beaucoup moins de temps. Et en fait, je suis devenu deux fois plus efficace. Et en fait, j'ai fait du chaos mon allié aussi. Ma vie est devenue beaucoup plus chaotique. Et en fait, je la trouve beaucoup plus fun maintenant, ma vie. Dans le sens où avant, tu as de l'espace pour un peu organiser les choses, faire en sorte que ce soit clair, ça va là. Là, c'est, j'organise mon temps, j'ai une marge de manœuvre. Qu'en fait, quand t'en as pas, tout est explosé et t'es obligé d'agir dans le moment présent. Et en fait, ouais, c'est justement cette découverte plus du moment présent qui, ça paraît un peu out there, un peu woo-woo, mais c'est vrai, en fait, c'est juste, c'est le plaisir d'être dans l'action et de, tu réfléchis pas avant ni après, tu fais. Et t'en ressors là un peu lessivé, mais avec une de ces bonne fatigue en fait.
Et j'ai l'impression aussi que plus tu planifies tes choses ou le projet sur lequel tu travailles, au plus tu fais des recherches en amont, au plus le moment où ça va être fatidique d'être rapide et efficace, ouais voilà, tout va être beaucoup plus simple aussi pour toi. Je sais pas si
tu veux dire qu'il faut comment dire.
En général, par exemple, en animation, si tu dois faire un plan, admettons de quelqu'un qui doit se lever et aller boire un verre à l'évier, au plus tu vas faire des tests et des recherches en amont, au plus le côté technique et va être rapide à faire parce que t'as fait tous tes choix artistiques en amont.
Ah, oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Moi, j'appelle ça définir le cadre, c'est-à-dire je peux être ça peut être la récréation, mais je sais dans quel cadre, en fait. Que si c'est juste le chaos partout, en fait, tu peux pas avancer, en fait. T'as besoin de définir des moments, que ce soit en termes de temps ou dans un cadre ou avec des contraintes, comme tu disais.
Ouais.
Et dans ce cadre, tu sais que du coup, c'est genre game on. Allez, vas-y, tu t'éclates, tu vas dans tous les sens, mais t'as préparé le terrain, en fait. C'est comme un sport, quoi. Tu peux être créatif sur le terrain, mais tu sais que ce sera entre telle heure et telle heure. T'as fait ton entraînement avant. Et ouais. Alors il y avait un autre sujet dont je voulais parler avec toi, ton Instagram, t'es très actif dessus. Tu fais pas beaucoup de stories, il me semble. Tu utilises pas beaucoup les stories, hein.
Ouais, non, pas trop.
Mais donc voilà, t'es très généreux en post, tu fais beaucoup de choses, tu montres beaucoup ton travail et tu fais aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qui m'intéresse, c'est tips and tricks.
Ouais.
Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et pourquoi tu le fais.
Alors en fait tout a commencé
Once upon a time
quand ma petite femme Damaris m'a challengé et me disait que peut-être donner un petit peu aux autres ça me ferait du bien. Et moi tout ce que je poste sur Instagram c'est toujours des choses très personnelles et c'est des choses que j'ai une idée et je veux que ça sorte. Et du coup, c'est mon petit ce qu'on disait, mon petit bac à sable. Et j'ai jamais eu la prétention, je pense, ou de savoir plus que les autres. Et du coup, je me suis, enfin, jamais je me serais dit, ah ouais, peut-être que les gens seraient intéressés par ça, tu vois. Mais en parallèle, depuis toujours, j'ai des petits carnets de croquis avec sur le carnet de croquis, il y a marqué tips and tricks. Et tout ce que je trouve intéressant dans le monde, je le marque là-dedans. Et du coup, bah, j'ai commencé à prendre quelques pages avec une thématique X ou Y, et j'ai commencé à les classer et à les dessiner dans des petits posts. Et c'est vrai que ça, je pense que les gens sont apprécient beaucoup quand tu leur partages du savoir, même si voilà, c'est des choses que mes maîtres à moi m'ont appris et je le retransmets. Du coup, c'est pas mon savoir, mais c'est apprécié par la communauté, et ça me fait aussi du bien à moi d'arriver à trouver les mots et d'arriver à prendre un concept qui me paraît compliqué mais arriver à l'expliquer. Il y a toute une partie de réapprentissage qui est très intéressante, et du coup je pense avoir commencé ça quand il y a peut-être deux ans, je pense, 2-3 ans. Et ouais, ça prend beaucoup de temps à préparer, mais c'est vrai que c'est beaucoup de fun à faire, parce que tu dois vraiment arriver à compresser ton savoir et le mettre de manière très claire et très simple, ou en tout cas c'est ce que j'aime faire. Et voilà, du coup j'ai toute une liste aussi de choses que j'aimerais bien concevoir, mais ouais,
au final tu le fais pour toi, mais tu le partages aux autres.
Exactement, c'est dans tous les cas, c'est comme des petites notes que je me fais pour pas oublier mon savoir. Toutes les choses que je trouve intéressantes, bah, ils vont être là-dedans. Et après, bah, si les gens peuvent l'utiliser pour leur propre truc, bah, c'est tant mieux, quoi.
Ouais.
Parce que ce qu'on disait avant, le savoir, c'est pas une ressource qui se divise, mais c'est chaque fois que tu la donnes, bah, quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser et ça va s'agrandir et s'agrandir. Et ouais, la personne sera toujours reconnaissante, même si elle n'arrive pas à l'exprimer avec des mots, elle reviendra toujours à toi.
Oui, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est ce
exactement.
Dont on parlait tout à l'heure en off.
Ouais.
Ça crée une sorte de cercle vertueux. Tu gardes pas tes billes pour toi, tu les partages.
Ouais.
Et en retour, les gens sont reconnaissants, s'intéressent à toi, et voilà quoi.
Exactement.
Et j'avais bien aimé, tu sais, pour en regardant tes tips and tricks, mm-hmm. préparer l'interview, il y en avait un où t'avais terminé, tu finis tout le temps tes tips and tricks par une petite phrase comme ça, un petit truc un peu positif. Il y en avait un où t'avais écrit, j'espère que ça vous encourage à produire plus de belles images, à observer plus et à donner plus d'empathie aux gens.
Mm-hmm.
Et je me demandais si pour toi, le fait d'observer plus, en effet, agrandit ton empathie. Comment ça s'est traduit chez toi?
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a tout un côté, quand tu commences à regarder les gens ou pour vouloir les dessiner, bah ouais, tu te rends compte que on est tous dans le même bateau et on est tous les mêmes, et oui, on est différents, mais on est tous sur cette terre au même moment, et c'est très profond, tu vois, et je pense que d'arriver à regarder les gens et voir en quoi ils sont spéciaux, ça donne un espèce d'amour pour les gens, même si tu les connais pas. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à regarder. Je sais que j'ai même pas besoin de dessiner, mais ce que j'adore, c'est aller à la gare ou dans un aéroport et juste m'asseoir et regarder les gens, et essayer de comprendre leur histoire.
Tu te fais dessiner.
Tu peux très vite quand même savoir des choses sur les gens si tu les regardes plus que quelques secondes, tu vois. Ouais, il y a un côté très humain à faire ça. Et je crois qu'en anglais, ils disent que c'est... Comment ça? Le people watching.
En gros, tu... Stalking?
Non. Ah. Parce que tu le fais pas dans une mauvaise intention. Ouais. Tu fais pas pour... tu fais pas ça pour récolter des infos sur les gens, mais juste pour entraîner ton observation et... Ouais, c'est comme quand t'es en soirée et que tu commences à regarder les gens, ton cerveau il commence à faire un petit blackout, mais t'es dans ton petit monde et tu regardes. Je pense que ça t'arrive aussi, non,
ouais,
des fois.
Ouais, bien sûr. Et je pense qu'on vit dans un temps où on n'ose plus trop s'arrêter et regarder. parce que soit on est trop occupé, parce qu'on se dit que ça va gêner les gens, parce qu'on se dit que c'est irrespectueux, ou simplement parce qu'on est trop occupé à regarder nos smartphones et à se bourrer la tête de mille choses, que on oublie de s'arrêter et de regarder. C'est toute la différence entre voir et regarder, j'imagine.
Ouais, c'est vrai que notre société, elle a tendance à aller de plus en plus vite. Notre
capacité à nous concentrer.
Ouais, il devient de plus en plus court et ça se traduit aussi dans les films. Les éditeurs coupent de plus en plus court. Les scènes d'action, tout va très vite. C'était toute la mode. Ça avait commencé avec Bref. Enfin, ça avait commencé bien plus tôt, mais Bref de Canal+, c'était un bon exemple.
L'incarnation de ce modèle-là.
Coupure très rapide. Et bref, c'est vrai que s'arrêter et regarder les choses mondaines de notre monde, au final, si t'enlèves le côté embêtant et le côté « il se passe rien », ah bah, très vite, tu peux trouver des petites subtilités qui racontent beaucoup de choses, mais il faut juste s'arrêter, s'asseoir et ouvrir les yeux, quoi.
Et tu le fais aussi? C'est aussi une discipline, du coup?
Bah, je pense quand tu dessines dans la rue, ou à l'extérieur, ou n'importe où, t'as un rapport quand même dans le présent, tu dois t'arrêter pour regarder les choses, parce que y a rien de pire que de dessiner juste une copie, Moi, je sais que j'aime bien d'abord regarder quelques secondes et arriver à avoir une image ou un concept en tête de ce que je vais dessiner. Et après, tout va aller plus vite ou tout va être beaucoup plus intéressant à regarder si je sais que la petite madame, elle est énervée parce que son chien vient d'aboyer. Au lieu de dessiner juste une dame dans la rue avec un chien, bah, je vais dessiner une femme qui est énervée parce que son cabot à aboyer, tu vois.
Et ça raconte beaucoup plus.
Ça ouvre tout un univers. Tu peux raconter.
Ah mais oui, tu suggères quelque chose qui n'est pas dans l'image.
Voilà, exactement. Et t'as toute une petite relation qui se crée. Et ouais,
tout le monde peut imaginer
magique.
Pourquoi elle s'est énervée. Exactement. Ou qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que son chien va se retourner sur elle. Est-ce que quelqu'un dans la rue va. Ah, ça suffit. Vous avez bien fini de crier comme ça. Enfin, oui, c'est vrai.
Ouais, il y a tout ce côté de storytelling, de raconter une histoire qui est super intéressante et c'est en ça aussi, je disais avant quand je dessine, des fois j'ai un petit déclic et ça c'est un truc que c'est un des meilleurs outils, si tu veux passer un petit peu plus de temps sur ton image, c'est d'arriver à trouver un truc qui te fait rigoler ou une petite histoire comme ça. Mais du coup, ouais, toute ton image, elle prend beaucoup plus de sens parce que t'as apporté un élément vraiment personnel là-dedans et beaucoup plus humain.
Ouais. Ouais, je pense que je me retrouve plus là-dedans. Je sais que mon style étant relativement simple, assez graphique, assez statique, j'ai plus m'amusé à mettre des petits détails que je me suis déjà posé la question du storytelling et je sais pas si mon travail s'y prête aussi fortement que par exemple quelqu'un qui travaille dans l'animation. Et je pense que pour moi ce serait le extra mile. Que je devrais peut-être faire plus, ça enrichirait probablement mon travail. Ouais, c'est tout un arc.
Après, tu mets dans storytelling vraiment tout ce que tu veux. Hein. Si tu dessines un personnage, avec une fleur, bah, tu vas raconter quelque chose, mais le choix de la fleur que tu vas prendre va raconter quelque chose d'autre. Donc, quand tu dessines, tu fais de toute façon du storytelling parce que t'as choisi un élément à dessiner. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est vrai que et de manière cliché, on pense storytelling plus une histoire à raconter.
Voilà, avec des bulles et des... Non.
Des rebondissements.
À partir du moment où tu as une intention, tu as déjà un storytelling, tu vois.
Ouais, mais on peut en mettre plus ou moins quand même.
Voilà, exactement.
Ouais, d'accord. Mais en termes de storytelling, et on s'approche petit à petit de la fin, est-ce que tu pourrais me citer quelques personnes, artistes ou pas d'ailleurs, qui t'ont inspiré, quelles sont un peu tes grandes sources d'inspiration?
Ouais. Comme dit au début de l'interview, c'est vrai que tous les dessinateurs de bande dessinée franco-belges, ça c'était quand j'étais jeune, j'ai vraiment vraiment beaucoup recopié tout ce qui était le petit Spirou. Jean-Ry, le
dessinateur. Bravo.
Ah non, c'est super important de recopier. Il faut le faire de manière intelligente et pas recopier en décalquant, mais en essayant d'absorber les choses.
Ouais.
Et ouais, du coup, bah ouais, Gaston. Récemment, je me suis replongé dans Astérix. C'est vrai que
c'est incroyable.
C'est tellement fort. Après, plus récemment, bah j'ai découvert Glenn Keane, un des plus grands animateurs que la Terre n'ait connu. Peter Desève, je sais pas si tu connais.
De nom, ouais.
Ouais. Lui, il fait vraiment. On parlait de storytelling, lui, c'est vraiment un maître. Il raconte dans une image toute une histoire. Et c'est vraiment intéressant parce que tu peux t'arrêter pendant 5-10 minutes et ton regard va tourner et trouver un autre détail qui correspond à ça et qui rebondit là-dessus. Et c'est vraiment super intéressant. Après, t'as des classiques comme Norman Rockwell.
Ah oui, je me souviens que Norman Rockwell, c'est un peu tondu à un moment.
Norman Rockwell, c'est vrai que lui, c'est une vraie star. Il a aussi une subtilité dans son dialogue visuel qui est trop intéressante. Et ouais, récemment, j'ai re-regardé aussi Sampé. Mmh. C'est une bête, hein. Wow. Avec des petits dessins tout simples.
C'est ouf.
Il arrive à faire bouger des cœurs. C'est fou, ouais. Et voilà, après, j'étais beaucoup plus dans le, comment on appelle ça, le développement visuel. Et du coup, il y a plein d'artistes, qui font des choses. C'est beaucoup plus récent, on va dire.
Ouais.
Et voilà.
Ben, fantastique.
Merci pour ton invitation.
Yes. Merci.
Et ton amitié.
Yes.
T'es un gars précieux.
C'est toi aussi. Arrête, là. C'est embarrassant.
Tu embrasseras tout ton auditoire, tous tes écouteurs.
Tu peux le faire là. Je vais leur un bisou.
Avec la langue.
C'est toi qui vois. Merci Joac.
Merci
et
à
puis,
toi.
Au plaisir.
Au plaisir, mon ami.
Ciao.
C'était ma discussion avec mon cher ami Joac. Encore une fois, merci l'ami d'être passé par chez moi pour discuter. C'est toujours un plaisir de te revoir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le lui dire en visitant son site internet ou en le suivant sur Instagram. L'occasion de jeter un œil à ses fameux tips and tricks. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Lutte Ostinato qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
Salut à tous, c'est Lutte et je suis illustrateur freelance et je soutiens Sens Créatif sur Patreon. Pourquoi je soutiens Sens Créatif? Bah c'est pas compliqué, c'est parce que c'est vraiment une ambiance à la cool. Ça soutient tout bêtement déjà le podcast qui est vachement intéressant et qui aborde toujours des artistes et des sujets vraiment passionnants et qui donnent envie et qui donnent la patate tout bêtement. Et parce que c'est aussi une communauté avec le Patate Club, les Patate Club Challenge aussi sur Instagram. C'est vraiment un lieu où on se rejoint, on se réunit, on discute, on parle de tout et de rien et pas forcément que de création justement, et c'est ça qui est très intéressant. Bah aussi parce que sans doute vous l'entendez, on est aussi en mode pique-nique et que ça fait du bien de se retrouver, d'avoir un peu d'humain après cette période. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je rejoins le Patreon, et c'est très accessible parce que les contributions commencent à partir de 2 euros. Donc c'est vraiment, plutôt qu'un petit café en terrasse, je préfère donner un gros big up à un podcast vachement cool et à une communauté qui l'est tout autant. Il y a aussi le Discord, et le Discord c'est vraiment un point de rencontre super important. Ça nous permet de tous évoluer, mais de pouvoir se poser des questions sans forcément être enfermé dans notre petite grotte pleine d'incertitudes et de craintes, et tout bêtement aussi de parler de nos grandes passions qui peuvent être la musique, la bière, mais aussi avoir tout bêtement des discussions jusqu'à tard dans la nuit sur plein de sujets. Bref, c'est vraiment un lieu cool.
Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr ou en allant directement sur patreon.com/senscreatifpodcast. D'avance, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité, qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas à écrivez-moi sur jeremy@jeremy-kleiss, ça s'écrit kleiss.com. Je termine en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.
Un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts doudou. Dans moi un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts l'amour. Bamaya Thibaut, j'ai Thibaut, toi Thibaut. Bamaya, il te l'a donné.